Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance Burkina Faso, assureur officiel du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.
Priorité Santé, Charlie Dupiot.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous parlons de nos reins, des organes vitaux dont on s'en préoccupe rarement. Et pourtant, ils jouent un rôle essentiel, celui de filtrer notre sang. Alors, comment prendre soin de ces reins pour éviter d'avoir une maladie rénale, souvent progressive et silencieuse? 850 millions de personnes dans le monde seraient concernées par ces maladies rénales, diagnostiquées la plupart du temps tardivement, en faute de symptômes. Et les reins ne peuvent plus fonctionner normalement tout seuls. Alors quelle peut être la prise en charge pour ces patients? Et puis comment améliorer la prévention sur un sujet qui reste méconnu? Avec nous pour en parler, le docteur Isabelle Tostivin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes néphrologue préventive à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et vous serez avec nous en studio tout au long de cette émission. Vous êtes spécialiste de la néphroprotection, c'est-à-dire de la prévention et du dépistage de la dégradation de la fonction du rein. On en parlera. Nous serons en ligne un peu plus tard dans l'émission avec le professeur Marie-Patrice Hall, interniste néphrologue et chef du service hémodialyse à l'hôpital général de Douala au Cameroun. Et puis, à la fin de cette émission, on fera un point sur un tout autre sujet, l'épidémie de grippe aviaire dans le monde avec Béatrice Graland. Elle est responsable du laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire, cette grippe aviaire. Comment se transmet ce virus qui touche d'abord les oiseaux sauvages et puis comment endiguer sa circulation? Voilà, ça c'est pour le programme du jour. Bienvenue.
Priorité santé sur RFI.
Alors pour commencer, docteur Isabelle Tostivin, une question très simple. À quoi servent les reins dans l'organisme? On sait que ce sont des organes vitaux, mais quelle est leur fonction? Quel est leur rôle précisément?
Ils ont un rôle essentiel dans la vie, puisqu'on dit qu'ils sont vitaux. En pratique, ils servent surtout, essentiellement, comme un thermostat chimique, à garder la composition de notre sang stable, quelles que soient les circonstances, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, quel que soit ce qu'on aura mangé. Et puis, ils servent aussi à rester debout, à ne pas tomber dans les pommes. Il a une fonction de filtration des déchets, de recyclage de certaines molécules filtrées, vraiment pour s'adapter. Les déchets du sang. Il a une fonction hormonale, rein. Le rein, c'est l'organe qui va fabriquer la rénine. La rénine, c'est vraiment ce qui nous donne de la tension quand on passe de la position assise à debout pour ne pas tomber dans les pommes. Merci nos reins. Ça, il fonctionne
grâce à la rénine.
Il fonctionne on sort des Jeux Olympiques, les sportifs qui se dopent à l'EPO, l'engrais à globules rouges, l'érythropoïétine, ça c'est aussi une fonction du rein, c'est aussi une glande hormonale. Et puis ça active la vitamine D qui est tellement importante pour nos os mais pour plein d'autres choses. Et puis enfin, moi j'ai l'habitude de dire que je suis fascinée par cet organe parce qu'il est complètement magique. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. On n'a pas tout à fait apprivoisé le rein. Un exemple très, 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 très simple. Vous mangez un carré de chocolat, Charlie. Eh bien, en fait, sur votre langue, vous aurez du potassium. Le potassium, c'est potentiellement dangereux pour notre cœur. Ça peut arrêter le cœur. Eh bien, nos reins, avant même que vous auriez absorbé complètement, fini de l'absorber dans votre corps, le rein va ouvrir les vannes du potassium pour nous protéger notre cœur. Il est magique, on ne sait absolument pas comment ça fonctionne.
Un organe donc au rôle multiple. Alors, quelles peuvent être les différentes maladies rénales? On peut peut-être déjà les lister.
Les maladies rénales, alors la plus connue, enfin la plus importante, celle qui met en dialyse, la plus hit parade, c'est le diabète. On parle de la diabésité mondiale, ça veut dire que notre mode de vie nous expose à l'obésité. On parle de globesity aussi, et quels que soient les continents, sur tous les continents. Et on parle également de diabésité, c'est-à-dire le diabète de type 2 qui va compliquer L'obésité, c'est-à-dire ce surpoids mal acquis autour du ventre, on parle aussi de syndrome métabolique. Donc ça, ça va abîmer le rein. Souvent, ça s'accumule avec de l'hypertension artérielle. Et la première cause de mise en dialyse en France, c'est l'hypertension artérielle. Donc en fait, si on traitait et qu'on dépistait mieux déjà les personnes atteintes de diabète de type 2, en particulier, et les hypertendus, ça déjà, on ferait beaucoup, beaucoup de progrès. Et puis après, il y a toutes les autres pathologies, il y en a beaucoup, mais déjà, celles qui sont liées à notre mode de vie, ça déjà, c'est un énorme progrès.
Et dans ces cas-là, on parle d'insuffisance rénale.
Alors, qu'est-ce que c'est la maladie rénale? En fait, la définition de la maladie rénale, c'est quand la capacité d'épuration du rein, la capacité de filtrer ces déchets diminuent. Ça, c'est l'insuffisance rénale. Et en fait, avant, on disait, on a une insuffisance rénale, on est dialysé, ou on n'en a pas. Il n'y avait pas beaucoup cet arc-en-ciel, en fait. Et maintenant, on sait qu'il y a 5 stades. Et en fonction de cette douche de 200 litres par jour qui passe à travers nos reins, et quand on ferme cette douche, on parle d'insuffisance rénale. Et la maladie rénale, c'est quoi? C'est quand on a la douche qui diminue, entre guillemets, on passe de 200 litres à 100 litres. Moins de 10 litres, on sait qu'il faut être dialysé ou transplanté. Et puis, il y a une autre notion un petit peu récente. Moi, j'adore, parce que ça fait 20 ans que je dis, on peut sécher les larmes du rein en faisant de la néphroprotection pour garder sa liberté rénale. Et bien, en fait, si on dépiste les larmes du rein, le rein, il est très silencieux. Il faut attendre plus de 90% de sa destruction pour qu'il y ait des symptômes. Sauf si on écoute chut, le rein, on connaît tous la chute des reins, des femmes, oui, très bien, mais le chute du rein, on devrait écouter, tendre l'oreille, parce qu'il pleure parfois un peu beaucoup, passionnément, de larmes d'albumine qu'on peut détecter dans les urines.
Alors justement, en se faisant dépister, grâce à un examen des urines, on en reparlera. Vous parlez de dialyse. La dialyse, c'est ce dispositif médical qui permet en fait de remplacer presque un rein défaillant, en tout cas de filtrer le sang à sa place.
En fait, la dialyse, c'est une technique qui n'existe pas partout. On est très très chanceux en France. On a un système sanitaire qui nous permet de dialyser les personnes qui en ont besoin. Et donc, c'est pendant 4 heures, on est branché à une machine qui va faire passer le sang contre une membrane. Et donc, par des forces de diffusion du plus concentré au moins concentré, eh bien, l'urée va sortir du corps, l'eau accumulée en excès, parce que je n'ai pas dit aussi que le rein contrôle le métabolisme de l'eau également.
Et à propos de l'insuffisance rénale, justement, on a une question de Kim à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Elle nous écrit sur WhatsApp. Elle nous dit « Mon petit frère et ma mère sont décédés à 1 an d'intervalle d'une insuffisance rénale. » Et elle se demande « Est-ce que c'est héréditaire ?»
Alors, c'est très difficile de répondre comme ça, sans autre élément, sans le contexte. Il existe, effectivement, des maladies rénales génétiques. Ça existe. La plus connue d'entre elles, c'est la polykystose. Et maintenant, on a des traitements, en tout cas en France, qui sont disponibles pour prévenir la dégradation de la fonction rénale. Est-ce héréditaire? Je peux dire oui, c'est possible. Et concernant l'autre question, concernant l'infection osseuse d'ostéite chronique, peut-elle contracter
une autre question effectivement de Kim. Est-ce qu'une personne atteinte de cette infection osseuse ostéite chronique peut contracter une insuffisance rénale?
Oui, et c'est assez classique si on utilise des médicaments antibiotiques qui sont toxiques pour le rein. Donc oui, c'est tout à fait possible.
Alors, il existe aussi ce qu'on appelle les calculs rénaux, on va en parler. Ces cristaux qui peuvent se former dans les reins. Et justement, sur ce sujet, on va joindre tout de suite un premier auditeur au Cameroun.
RFI à Douala.
Vous nous écoutez à Douala, mais c'est à Bibémi qu'on vous retrouve, Ibrahim. Bonjour Ibrahim.
Allô?
Oui, Ibrahim, merci d'être avec nous dans cette émission consacrée à la santé de nos reins. On vous écoute, Ibrahim.
Oui, bonjour et bonjour docteur.
Bonjour Ibrahim.
Oui, dès l'âge de 12 ans, j'ai été contracté par le problème des calculs rénaux où j'ai tellement souffert pendant 2 ans par ce problème. Et après quelques années, c'était le mois surpassé, ça fait déjà 5 mois que j'ai encore été diagnostiqué et j'ai eu ces problèmes. Je me suis rendu à l'hôpital et le médecin a diagnostiqué que j'ai le problème de calcul rénaux au niveau du rein droit. Et bon, le médecin m'a dit que de boire seulement beaucoup d'eau, il ne m'a pas prescrit de médicaments. Mais deux fois, à chaque fois, ça répète, je rechute cette maladie. Maintenant, ma préoccupation est que, est-ce que le fait que ça se répète à chaque fois, est-ce que j'aurai des perquisitions sur ma santé? Est-ce que ça va déclencher quoi que j'ai des problèmes de calcul, des problèmes de l'insuffisance rénale plutôt?
Ibrahim, juste une petite question. Vous dites que ça a commencé à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, vous en avez 31. Vous êtes âgé de 31 ans. À quelle fréquence vous avez ces épisodes de calculs rénaux?
Oui, ça m'a d'abord attrapé quand j'avais 12 ans. Et puis ça m'a laissé. C'est l'année passée que ça a encore recommencé.
D'accord, donc c'est la deuxième fois.
Oui.
Alors, docteur Isabelle Tostivin, qu'est-ce qu'on peut répondre à Ibrahim ?
On peut répondre qu'il a très probablement une malformation anatomique, une petite poche dans le rein droit qui fait que qui entraîne une accumulation de déchets, probablement de l'oxalate de calcium. C'est difficile de répondre, mais il s'agit très probablement d'un calcul lié à de l'anatomie modifiée, parce que à l'âge de 12 ans, et que le fait que ce soit unilatéral, c'est très très probable. Concernant le problème des conséquences à long terme, eh bien, j'ai juste une question. Vous n'avez jamais expulsé le calcul, vous n'avez jamais vu le calcul, Ibrahim ? La couleur du calcul ?
À l'âge de 12 ans ?
Oui.
Oui, à l'âge de 12 ans, le médecin m'avait prescrit un certain médicament.
Vous avez expulsé le calcul ?
Exactement.
Est-ce qu'il a été analysé ? Parce qu'en fait, le calcul, c'est un disque dur de la recette à l'origine de sa fabrication. En fait, on peut lire le passé dans les calculs, l'avenir dans les cristaux, dans les urines. Mais est-ce que ça a été fait, ça, Ibrahim ? Vous savez ?
Non, on n'a pas
analysé. Non, on n'a pas fait. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que compte tenu de votre jeune âge, compte tenu que vous avez eu les bons conseils d'hydratation, de dilution des urines, uriner environ 2,5 litres, voire 3 litres, eh bien, c'est très, très important pour vous et ça préserve la fonction de votre deuxième rein, le rein de l'autre côté.
Le rein gauche.
Et le rein gauche, en l'occurrence. Et donc, en dehors des douleurs qui font évidemment mal, on peut être assez rassurant sur le pronostic dès lors qu'il n'y a pas d'hypertension. Donc ça, je vous conseille de vous faire dépister la tension. C'est assez facile de mesurer sa tension. Voilà.
Et il s'inquiétait éventuellement d'une insuffisance rénale à long terme. Est-ce qu'il y a un lien ? Entre calcul rénaux, insuffisance rénale.
Il peut y en avoir un si ce n'est pas diagnostiqué, si ça récidive, si on prend beaucoup d'anti-inflammatoires qui sont les médicaments de la colique néphrétique, si on fume, si on ne fait pas attention à comment on mange, etc., si on ne boit pas et s'il y a beaucoup, beaucoup de récidives. Là, j'ai compris que les récidives, c'est plutôt assez espacé et c'est que d'un côté. Donc, c'est quand même très rassurant. Donc, l'insuffisance rénale pour vous, Ibrahim, alors évidemment, c'est difficile de travailler sans filet, sans autre élément, mais je pense qu'on peut quand même vous rassurer parce que vous avez eu quand même les bons conseils. Les autres conseils que je vous donnerai, c'est de faire mieux que vos amis, que vos copains, de manger équilibré, bien réparti sur les trois repas, plutôt que rien le matin, pas grand-chose, midi, tout le soir, ça, le rein déteste ça. Et puis
et boire beaucoup d'eau.
Et boire beaucoup d'eau, en particulier le soir. Tisane du soir, espoir contre les cristaux du matin chagrin. Nos urines se concentrent dans la nuit si nous ne buvons pas, puisque nous respirons, et bien nous perdons de l'eau. Et le rein, il va réabsorber beaucoup, 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 beaucoup. C'est le ressac dans le rein. Ça filtre, mais ça réabsorbe. Plus de 95% est réabsorbé en pratique.
Vous êtes rassuré, Ibrahim ?
Oui, et j'espère que... Donc, ma deuxième question est que est-ce que je n'aurai pas de répercussions sur ma santé après quelques années ?
Écoutez, si vous mettez en place tout ça pour optimiser votre style de vie, votre équilibre hygiéno-diététique hein, avec la nutrition et sous couvert de la surveillance, du dépistage de l'hypertension artérielle, on peut assez raisonnablement vous dire que c'est important c'est plus important pour vous de respecter les bons conseils de santé. Et par ailleurs, j'en profite pour dire que il existe de plus en plus de diffusion et de formation des médecins qui exercent également en Afrique. Et donc, je voudrais rendre hommage, par exemple, au docteur Mohamed Daaba, qui travaille à Touba. Donc c'est au Sénégal, mais qui vraiment voit des personnes de partout. Et donc je ne peux que vous encourager à consulter, parce que je pense qu'un jour, le Cameroun aussi aura ses experts lithologues sur place, sans vous déplacer.
Merci beaucoup Ibrahim pour votre témoignage. Et je rappelle le numéro 1 pour nous appeler sur WhatsApp, c'est le 33 7 61 18 46 41. Et on a aussi d'ailleurs une question sur WhatsApp, c'est celle de Don en Haïti. Il vous demande, docteur Isabelle Tostivin, qu'est-ce qui peut causer des calculs rénaux? Et c'est vrai qu'on se pose la question, à quoi c'est dû?
Alors, il y a plusieurs causes évidemment. Il y a des causes anatomiques, ça c'est le contenant qui est problématique. Il y a une petite poche et donc ça cristallise, ça fait comme une stase, comme quand vous avez de l'eau qui croupit, bien ça cristallise, si vous voulez. Ça, c'est facile, entre guillemets. Il y a des maladies d'organes, et puis donc ça, c'est ce qu'on vient de voir avec Ibrahim, et il y a des maladies d'organisme. Donc en fait, le calcul, ça peut être lié à un déséquilibre de notre alimentation, qui est très riche en protéines, en sel, en sucre, en graisse, et qui va faire cristalliser surtout l'oxalate. Et puis pas assez riche en fibres, pas assez riche en magnésium, en potassium, qui sont cette force anti-calcul, comme une force Calgon anti-tarte, si vous voulez. Donc en fait, on est très 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 déséquilibré. Vous ajoutez le stress, donc ça c'est une énorme partie des calculs, c'est hygiéno-diététique. Et puis une autre partie, ça peut être des calculs d'infection, notamment chez les femmes jeunes, hein, on a des calculs, les petites bactéries qui ont comme qui construisent elles-mêmes les calculs rénaux en modifiant le pH, elles sont très intelligentes, fabriquent des pierres qui vont vraiment, on parle de calculs coralliformes dans ces cas-là. Et puis enfin, il y a d'autres maladies. Donc en fait, un calcul, c'est toujours une pépite d'information de ce qui s'est passé juste avant. Et vous avez après le calcul du chagrin d'amour, du burn-out, du bore-out. C'est incroyable parce que ça témoigne d'un déséquilibre très important.
Un déséquilibre émotionnel.
Un déséquilibre psychosomatique. Après, vous avez des maladies génétiques également. Donc en fait, montrez-moi votre calcul, je vous dirai pourquoi vous l'avez fabriqué.
Et une autre question hein, toujours de Don, c'est est-ce qu'une personne ayant des calculs rénaux peut pratiquer de l'athlétisme?
Alors ça, c'est la question. Quand on se souvient tous des Jeux Olympiques l'année dernière avec Gianmarco Tamberi qui... C'est triste, hein, qui fait du saut en hauteur, le champion de saut en hauteur italien, qui malheureusement a une colique néphrétique. Alors moi, j'ai du mal à comprendre comment que cela est possible, parce qu'en fait, on pouvait l'anticiper. Le calcul rénal, il ne l'a pas fabriqué le jour J. C'est impossible. Il faut quelques mois, années pour fabriquer des calculs rénaux. Donc
ça aurait pu être anticipé.
Écoutez, moi, je ne comprends pas. Voilà, je m'interroge.
En tout cas, c'est possible de faire du sport avec des calculs rénaux, parce qu'on imagine que c'est très douloureux quand même.
On déconseille, parce qu'on va avoir des épisodes dématuries, c'est-à-dire du sang dans les urines, et puis on va être moins performant, tout simplement. Donc en fait, c'était intéressant, cette histoire du saut en hauteur, du champion, parce qu'en fait, on parle beaucoup du cœur, on parle de la tête, on a des préparateurs mentaux, mais les reins sont les grands oubliés, les organes pourtant vitaux, et grands oubliés de la santé, en tout cas de la prévention.
Et pour éviter justement d'avoir une maladie rénale, une solution, on en parlait, le dépistage et notamment un examen des urines qui peut nous éviter beaucoup de désagréments. Allez, on va continuer de parler de nos reins dans Priorité Santé, mais d'abord, In Your Eyes, c'est signé Snow Allegra. Et vous êtes bien sur RFI.
Some more when you get
On prend soin de nos reins aujourd'hui dans Priorité Santé avec notre invitée, le docteur Isabelle Tostivin, néphrologue préventive à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et on va joindre tout de suite le professeur Marie-Patrice Hall à Douala, au Cameroun. Bonjour.
Bonjour madame.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes interniste néphrologue et chef du service hémodialyse au sein de l'hôpital général de Douala. Est-ce qu'on connaît la prévalence des maladies rénales au Cameroun? Est-ce que vous disposez de chiffres sur le sujet?
Oui madame, nous avons quelques études menées sur le terrain au Cameroun, dont on va distinguer d'abord les deux types évolutifs. Donc pour ce qui concerne la prévalence de la maladie rénale chronique, elle est globalement située autour de 13,6%, avec des différences qu'on soit en zone urbaine ou en zone rurale. En zone urbaine, ça se situe entre 10 et 11% et un peu plus élevé en zone rurale, donc 12 à 14,7%. Et lorsqu'on prend les sous-groupes, cette prévalence est encore plus élevée. Pour ce qui est de l'altération rénale aiguë, une étude hospitalière, la plupart des études sont hospitalières et l'incidence est estimée à 22,3%. Au Cameroun.
Et quand vous parlez d'altération rénale aiguë, à quoi vous faites référence? De quoi il s'agit?
En fait, c'est la deuxième forme évolutive, autrefois appelée insuffisance rénale aiguë, parce que la maladie rénale évolue sur deux modes, donc aiguë et chronique. Et c'est pour ça que pour parler des prévalences, il faut distinguer les deux types.
Voilà. Et les symptômes de cette altération rénale aiguë, quels sont-ils?
Quel que soit le mode évolutif, que ce soit aigu ou chronique, les symptômes sont les mêmes parce que la finalité, c'est la défaillance rénale. Et c'est une évolution très insidieuse dont les symptômes sont tardifs, ça signe la mort rénale. Donc c'est des signes en rapport avec l'intoxication urémique. Donc, qui touche presque tous les organes. On va parler des signes généraux comme l'asthénie, l'anorexie, les signes digestifs, c'est la nausée, c'est les vomissements et bien d'autres signes. Sur le plan, on a aussi la rétention hydrosodée, qui doit vous donner des œdèmes. Et en fonction du type étiologique, le patient va avoir aussi de l'hypertension artérielle. À côté de ça, on a d'autres signes, bien l'intoxication, peut-être on peut avoir une encéphalopathie urémique au stade vraiment avancé et où le malade peut être confus. Le malade va être confus, va être somnolent et ça peut évoluer jusqu'à un coma et même des convulsions. Ça, c'est un peu ramassé, grosso modo, ces signes. Les signes précoces, ça peut être la diminution de la quantité des urines, donc de la diurèse journalière, qui devrait attirer l'attention des patients et peut-être les œdèmes. Pour ne parler que de cela.
On a parlé donc des différents symptômes là. Et puis, quelles sont les causes les plus fréquentes de ces maladies rénales au Cameroun où vous travaillez?
Au Cameroun, si on prend la forme, je commence par la forme chronique parce que c'est celle qui nous pose, qui pose un véritable problème de santé publique. Et chez nous, les causes les plus fréquentes sont d'abord infectieuses, dont les infections, qui peuvent être virales, parasitaires ou bactériennes, suivies de l'hypertension artérielle, du diabète et surtout les causes inconnues. Les cours inconnus représentent un grand groupe et puis il y a les toxiques aussi. Voilà, pour ne citer que les causes les plus fréquentes. Maintenant, pour la forme aiguë, c'est surtout toutes les situations d'hypovolémie, qu'elles soient vraies ou efficaces, dont les situations d'hémorragie, qu'elles soient digestives ou obstétricales, les gastro-entérites avec hypotension et hypovolémie sévère.
Et hypovolémie, si on peut définir ce que c'est peut-être ?
Baisse de la volémie dans le corps, donc la baisse liquide, donc toute perte de liquide, on va dire ça simplement comme ça. Toute perte de liquide, que ce soit des liquides, ça peut être donc du sang, ça peut être de l'eau, comme dans la diarrhée. Et voilà, ça j'ai cité les hémorragies, j'ai cité les diarrhées aiguës sévères. Toute situation de gastro-entérite avec vomissement sévère. On a aussi les hypovolémies relatives, pour les malades avec une insuffisance cardiaque, les malades avec une cirrhose hépatique avancée, et les malades aussi avec les gros syndromes néphrotiques que nous voyons chez nous. Donc, le malade qui est en surcharge, mais sec dans le secteur vasculaire. Ça, c'était la première cause pour la forme aiguë. Mais à côté de ça, on a les infections, dont le paludisme, tout état de sepsis, et enfin les médicaments, dont les toxines, les causes toxiques qui ne sont pas rares chez nous.
Voilà. Et alors, on l'a compris, pour ces maladies rénales, quelles qu'elles soient, le diagnostic est primordial. Quels peuvent être les freins, justement, pour ce diagnostic ?
Pour le diagnostic, au Cameroun, c'est pour le diagnostic positif, c'est-à-dire affirmer la maladie rénale, nous avons les outils qu'il faut. Et le problème va se poser au niveau de la recherche étiologique, donc de la cause de la maladie, surtout en ce qui concerne les atteintes glomérulaires, où on a le plateau technique n'est pas suffisant, notamment chez nous, la pathologie rénale n'est pas développé pour pouvoir analyser les pièces de biopsie rénale. Autre chose, c'est pour ce type de pathologie, on a souvent besoin de faire un bilan immunologique qui est très coûteux chez nous, parce que la plupart de nos patients n'ont pas une assurance maladie. Donc on va dire le plateau technique est insuffisant et le coût de la prise en charge.
Et justement, par rapport à ce coût de la prise en charge, on parle de la dialyse, donc ce dispositif médical qui vise à remplacer, entre guillemets, bien sûr, la fonction d'un rein qui serait altéré. Est-ce que cette dialyse est accessible partout au Cameroun, géographiquement déjà ? Et puis, qu'en est-il du coût de cette dialyse ?
Au Cameroun, depuis plusieurs années, la modalité, c'est l'hémodialyse, celle qui est utilisée chez nous. Et elle a beaucoup évolué ces dernières années. Elle a beaucoup évolué et sur le plan géographique, c'est accessible dans toutes les 10 régions du Cameroun. Et accessible aussi pour le patient depuis déjà. Et très accessible parce que depuis 2 ans environ, la séance de dialyse est couverte par... On a une couverture santé universelle pour la séance de dialyse. Ce qui fait que c'est presque gratuit pour le patient qui débourse 15 000 francs CFA par année.
Donc c'est une vingtaine d'euros à peu près.
Voilà, contre 520 000 francs il y a moins de 2 ans.
Donc au lieu de 800 euros. Donc ça a beaucoup diminué en termes de coûts.
Beaucoup, beaucoup. L'État prend ça en charge via cette couverture santé universelle.
Et vous, à votre échelle, en quel message de prévention vous aimeriez faire passer là sur ce sujet-là ?
La prévention reste la clé, parce que la maladie rénale, surtout que nous recevons nos malades au stade terminal, tout ce que nous recommandons, c'est une bonne hygiène de vie à tout le monde pour éviter les principaux facteurs de risque. Donc, on va dire une alimentation saine et équilibrée, bien s'hydrater, donc environ 8 à 10 verres d'eau par jour. Réduire la consommation en sel, arrêter le tabac et l'alcool ou alors éviter, et surtout faire une activité physique soutenue, régulière, d'environ au minimum 150 minutes par semaine, sur au moins 3 séances. Donc, autre chose, c'est tout faire pour prévenir la survenue des facteurs de risque. Donc, si on adopte cette hygiène de vie, forcément, on va éviter le diabète.
Donc des conseils en termes d'hygiène de vie que vous partagez, bien sûr, docteur Isabelle. Toi, Steven, j'aimerais vous relayer la question d'un auditeur, Mahamat, qui nous écrit depuis le Tchad. Je vous la pose à toutes les deux. Quelles sont les boissons qui participent à la destruction des reins? Alors, on parle beaucoup de l'eau, mais quelles sont les boissons néfastes, professeur Marie-Patrice Hall?
Ici en Afrique, moi j'appellerais tout ça les potions traditionnelles, parce que nous sommes les grands consommateurs. Tout ce qui est concoction sont assez délétères pour le rein, surtout dans la forme aiguë. Autre chose, c'est la meilleure boisson, c'est l'eau pour nous les néphrologues, c'est l'eau. Je ne voudrais pas éviter, et puis on va éviter les boissons trop salées, puisqu'il faut éviter le sel. Mais en Afrique, je pense que je mettrais le doigt plus sur les potions, plus les boissons de provenance douteuse ou de composition douteuse.
Docteur Isabelle Tostivin.
Et moi, je dirais qu'en France, ce sont les boissons sucrées, les sodas notamment, qui sont pour certains terribles pour la modification du pH, l'hyperacidité urinaire, et puis la grande consommation de sucre qui confine à l'accumulation de graisse et donc à l'obésité, on le sait maintenant. C'est très très lié.
Voilà, donc on insiste pas assez sur cette prévention. On continue de répéter ces messages-là. Une bonne hygiène de vie, boire de l'eau et puis éviter certaines boissons. Un grand merci, professeur Marie-Patrice.
Bravo à vous, chère consoeur, parce qu'en plus vous êtes une femme, chef de service, magnifique.
Chef du service, merci effectivement, hémodialyse au sein de l'hôpital général de Douala au Cameroun. Merci et bravo. Merci d'être intervenue.
Beaucoup. C'est moi qui vous remercie de nous avoir associés à cette émission.
Merci à vous, docteur Isabelle Tostivin. Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage de Françoise, qui nous a laissé une note vocale sur WhatsApp depuis Lomé, au Togo.
Bonjour, je m'appelle Françoise, je vis à Lomé depuis 25 ans et j'ai 82 ans. Mais malheureusement, j'ai un diabète type 2 depuis 1995, c'est-à-dire depuis 30 ans. Ce diabète est bien équilibré. Il y a longtemps qu'on m'a détecté une insuffisance rénale, un début d'insuffisance rénale. Et pour essayer de lutter la contre, protéger mes reins, en fait, pas que ça se détériore. Moi, j'ai très peur de la dialyse. Donc, actuellement, je prends des comprimés qui s'appellent Jardiance. Ma question est, qu'est-ce que je peux faire pour encore protéger mes reins? Comment faire? Quoi faire? Vraiment, je suis inquiète. J'ai pas envie que ça se détériore. Merci.
Docteur Isabelle Tostivin, que peut-on répondre à Françoise?
Eh bien, elle a les bons médicaments, elle est suivie par les bons médecins, parce qu'en fait, le médicament qu'elle prend, c'est un médicament qui est révolutionnaire pour nous, qui vraiment va assécher les fameuses larmes du rein, qui sont ces gouttes d'albuminurie, qui sont très très mauvaises pour le rein. Le rein, il faut imaginer, c'est un tout petit organe, il tient dans sa propre main, il fait 10-12 cm à peine. Et c'est comme un paquet, une pelote de vaisseaux, c'est comme le sang de Pompidou, mais avec de tout petits vaisseaux. Et donc, tout ce qui va augmenter la circulation dans ces petits vaisseaux va être excellent. Bouger, mais même bouger un petit peu, et même à 82 ans, on peut bouger, on peut marcher. Dès lors qu'on marche, on active la circulation. On va contrôler la tension, on va sécher les larmes du rein. La seule chose qu'on peut dire encore en plus, c'est que le rein, il déteste le trop de protéines d'un coup d'un seul. Donc en fait, on regarde la paume de sa main, on mange la moitié environ en protéines animales, et puis on peut s'aider des conseils auprès d'une diététicienne, mais en pratique, on sait que c'est environ 1 gramme par kilo et par jour d'habitude, mais pour le rein, ce sera volontiers moins. C'est très toxique potentiellement pour les reins.
Et on entend la peur de Françoise de la dialyse. Il faut quand même dire que c'est un traitement qui est assez contraignant. On parle de séances de plusieurs heures, plusieurs fois par semaine. Voilà, comment expliquer cette peur-là, la dialyse qui sauve des vies, mais bon, il vaut mieux l'éviter, effectivement.
Ceux qui ont perdu leur liberté rénale, on va dire ça comme ça, connaissent le prix de garder ses reins en santé. Parce ça peut détériorer la qualité de vie, oui, parce qu'on ne peut plus bouger, on ne peut pas forcément boire ce qu'on voudrait, on est soumis à des horaires trois fois par semaine pendant 4 heures, ça c'est seulement le temps de brancher la machine. Ça ne sous-entend pas le temps d'attente, le temps de transport, etc. Même si de plus en plus on tend à déplacer à la maison, de plus en plus. Mais effectivement, c'est un bouleversement total de la qualité de vie. C'est pour ça qu'on a un grand effort à faire pour dépister en amont. Avec ces nouvelles molécules qui s'appellent les glyphosines, on peut espérer vraiment décaler de 10, 12 ans l'entrée en dialyse, voire même pour certains, ne plus y aller du tout.
Allez, on va donner la parole à un dernier auditeur.
RFI à Monrovia.
Bonjour Mamadi.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous depuis Monrovia, donc au Liberia. Vous, cela fait 2 ans que vous ressentez des douleurs au niveau des reins. On vous écoute, Mamadi.
Oui, il y a cela 2 ans, je ressens toujours les mêmes douleurs, mais pas de façon intense. Ça m'arrive des fois après, mais je ressens ce genre de douleur quand j'ai la constipation chronique. Chaque fois que j'ai de la constipation, la douleur, ça remonte. Bon, j'ai fait ma consultation avec un médecin. Bon, lui, il m'a rien dit d'essentiel, ce que je peux prendre, comme si voici la prévention, soit voici un tel médicament pour ton traitement définitif. Il m'a jamais dit ça. Je l'ai une fois dit, deux fois dit. Souvent, j'ai même essayé des traitements traditionnels. L'autre me demande, est-ce que tu as eu des chocs? Je dis, bon, si j'ai eu des chocs, je n'en sais tellement pas et je ne me sens pas victime d'une telle blessure aussi. Mais souvent, je ressens quand j'ai de la constipation. Je me suis demandé, est-ce que la constipation peut être la cause exacte quand on se sent constipé, peut provoquer au moins ce genre de douleur rénale? La question que je me pose souvent, bon, pour le moment, à partir de ma position là, bon, je ne ressens pas parce que je prends maintenant des produits traditionnels pour essayer d'éviter la constipation régulière. Mais bon, la question que je me pose exactement, est-ce que la constipation chronique est la base ou pas?
Docteur Isabelle Tostivin.
On a dit le chute du rein. Le chute du rein. Le rein, il fait jamais mal, sauf quand il est mis en tension au niveau de ses cavités, quand il y a un petit calcul qui bouge, qui obstrue le tuyau entre la vessie et le rein. En pratique, ce dont vous souffrez probablement, Mamadi, c'est que le côlon, c'est du côlon. En fait, le côlon à droite, il fait comme une boucle presque qui touche le rein droit et ça peut donner des douleurs qui sont proches du rein, mais en fait, ce n'est pas le rein qui souffre réellement, c'est plutôt l'air accumulé dans la boucle colique droite, c'est assez fréquent et donc on a l'impression qu'on a mal au rein. En pratique, on a mal au côlon droit qui fait une forme de boucle parce que l'air s'accumule volontiers dans cette boucle du côlon droit. En fait, il y a une petite angle colique. Donc, je ne peux que vous conseiller de traiter cette constipation du mieux que vous pouvez. Restez très bien hydraté également. Et normalement, il n'y a pas vraiment de lien entre la constipation et les reins.
Donc pas de risque de maladie rénale a priori pour Mamadi. Merci beaucoup pour votre témoignage, Mamadi. Docteur Isabelle Tostivin, est-ce que vous auriez peut-être un dernier conseil à nous partager pour prendre soin de nos reins? Quelque chose qu'on n'aurait pas assez dit dans l'émission?
Restez heureux, bougez, et puis rire, et puis surtout profiter de la vie. Peut-être en ce moment, là, ce qu'on voit débarquer, c'est le cocktail peut-être de compléments alimentaires qui sont cumulatifs, potentiellement délétères pour les reins. Donc, juste warning sur les cocktails. Vous savez, il y avait beaucoup de femmes qui vont prendre du collagène, plus de l'acide hyaluronique, plus du curcuma, plus en quantité assez impressionnante qui ne sont pas faites pour que le rein ne tolérera pas forcément quotidiennement.
Et puis peut-être se faire dépister bien le plus sûr, souvent possible, dépister, notamment quand on est à risque, on le disait, concerné par l'obésité, le diabète, l'hypertension. Voilà, on est plus
le
à
tabac,
risque de maladie rénale.
Bien sûr. Dépistez-vous, faites-vous dépister parce qu'on a vraiment des solutions maintenant pour éviter la dialyse.
Donc souriez et dépistez-vous. Merci à vous, docteur Isabelle Tostivin.
Merci à vous.
On vous retrouvera, je pense, avec plaisir pour continuer à parler de ce sujet essentiel, la santé de nos reins. Et on va parler d'un tout autre sujet avant la fin de cette émission. Restez avec nous.
quieres divertir. Otra vez lo sacamos al estadio.
Tiene piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba.
C'était Bad Bunny de Nueva Yol, un titre de la playlist RFI. Vous écoutez Priorité Santé et on va parler maintenant de la grippe aviaire ou l'influenza aviaire, présente sur tous les continents sauf en Australie. La France a notamment connu depuis 2015 plusieurs crises majeures de cette infection virale hautement contagieuse des oiseaux sauvages et domestiques, ce qui a conduit à l'abattage notamment de millions de volailles pour limiter la propagation du virus. Bonjour Béatrice Graland.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes responsable du laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire. Alors peut-être déjà, comment se transmet ce virus d'oiseau en oiseau ?
Alors ce virus en fait affecte tous les oiseaux, mais vraiment tous les oiseaux, mais le réservoir de ces virus ce sont les oiseaux d'eau comme les canards, les anatidés ou les goélands, enfin de tous les animaux de ces familles-là. Et le virus se transmet entre oiseaux, soit par la voie respiratoire, soit par la voie digestive, par les excrétions, donc par voie directe, donc par exposition, ou même indirecte via la transmission dans un environnement s'il est contaminé. Par exemple avec des fientes d'oiseaux qui sont contaminées par le virus.
Et alors, quelles conséquences peut avoir cette infection pour les oiseaux et puis plus largement pour tous les animaux qui sont exposés aux oiseaux infectés ?
Alors, il existe vraiment une diversité assez importante de virus influenza aviaire qui affecte les oiseaux. On s'intéresse, nous, plus spécifiquement à deux types de virus qu'on dit H5 et H7. C'est parce que c'est la protéine qui est majeure, qui fait la forme du virus à l'extérieur. Et ces sous-types, en fait, H5 et H7, peuvent être plus souvent transférables à des mammifères, dont l'homme. Donc, c'est ces virus-là qu'on observe particulièrement. Et chez les oiseaux, ils ont deux formes. Une forme qui peuvent ne pas donner de symptômes chez les oiseaux, c'est-à-dire que les oiseaux vont très bien, et certains virus qui peuvent être très très pathogènes, donc ça veut dire qu'ils ont des symptômes qui peuvent provoquer jusqu'à 95% de mortalité des oiseaux quand ils sont atteints. Et c'est ces virus-là qu'on regarde chez les oiseaux. Et chez les oiseaux, on s'intéresse à un virus en particulier qui justement a diffusé depuis de nombreuses années, qu'on appelle le H5N1, hautement pathogène pour les oiseaux, et qui a été aussi transmis à plein de mammifères depuis au moins 3-4 ans, là, et via la diffusion du virus chez les oiseaux. Et on a maintenant plus d'une soixantaine d'espèces de mammifères dans le monde entier qui ont déjà été détectées positives infectées par ce virus H5N1 hautement pathogène pour les oiseaux.
Quels mammifères, par exemple ?
Alors, on peut citer l'homme, hein, puisque malheureusement, c'est heureusement quand même, les symptômes sont la plupart du temps peu graves, c'est-à-dire que c'est plutôt des symptômes respiratoires ou des conjonctivites, parce que le virus peut s'accrocher en fait au niveau des conjonctives des yeux, si les personnes se frottent, ont eu un contact avec un virus infecté au niveau des mains et se frottent les yeux, par exemple. Mais en faune sauvage, ça peut aller des renards, visons, ours, des mammifères marins comme les phoques, éléphants de mer, avec des mortalités très très importantes d'éléphants de mer, plusieurs milliers d'animaux morts en Amérique du Sud et actuellement dans les îles australes françaises, par exemple.
On a eu un des cas donc, de transmission vers l'homme, vous le disiez, hein, aux États-Unis. Quelles mesures de prévention peuvent être mises en place ? Comment se protéger, par exemple, quand on est un particulier et qu'on a des volailles ?
Alors oui, en effet, vous parlez des États-Unis parce que ce virus, malheureusement, aux États-Unis, est passé également aux vaches laitières et qui est un nouvel hôte, en tout cas, de ce virus et se transmet et est excrété, en fait, se multiplie au niveau des pies des vaches et est excrété en grande quantité dans le lait. Donc, d'où beaucoup d'expositions aux États-Unis actuellement des personnes qui travaillent en élevage bovin et qui sont exposées à ce virus. Et donc, on a une augmentation du nombre de cas humains. Il y en a aussi des personnes qui sont en contact directement avec des volailles infectées, hein, par exemple, et qui peuvent être exposées au virus. Mais on a une augmentation dans le monde entier de l'exposition des hommes. Donc pour limiter cette exposition, en effet, c'est de si on a, il y a une suspicion, par exemple, une mortalité anormale, par exemple, si un particulier a des volailles et voit ces volailles qui meurent d'un coup, soudainement, très rapidement, il y a une suspicion dans ce cas-là d'influenza aviaire et les personnes, elles doivent se protéger d'abord, mettre des gants,
voilà,
des
masques, lunettes. Voilà, masque, gants, lunettes, c'est ça pour se protéger.
Pour se protéger et signaler que justement ces volailles sont mortes rapidement et éviter d'aller justement
voilà, et puis maîtriser la circulation de ces virus pour préserver donc la santé publique. Un grand merci à vous, Béatrice Graland. Priorité Santé touche à sa fin. Merci d'avoir suivi notre émission et merci à toute l'équipe en coulisses, Ophélie Lassène, Louise Kalédek, Talim Pouo, Julia Pache, Thibaut Mata et Victor Hull à la réalisation. Et pour vous entendre aujourd'hui, Pauline Berthélémy, on se retrouve demain. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance Burkina Faso, assureur officiel du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.